Au sommaire de ce journal, jour de vote au Burkina Faso, la population élit son président et ses députés. Nathanaël Charbonnier était ce matin dans un bureau de vote à Ouagadougou. Au chapitre du Covid-19, nous irons au Danemark où l'abattage de 15 millions de visons en partie contaminés provoque une crise politique. En France où les témoignages d'amendes abusives se multiplient. Et nous entendrons aussi l'appel au secours des associations sportives. Nous reviendrons sur le dénouement d'une histoire à la James Bond, celle d'un ex-espion américain pour Israël. Enfin, la face cachée du globe consacrée cette semaine à la Syrie. Les bureaux de vote ont ouvert très tôt ce matin au Burkina Faso, dès 6h du matin. La population vote pour élire son président et ses députés à l'Assemblée nationale, le tout dans un contexte sécuritaire tendu à cause de la menace djihadiste. Dans certaines régions, l'accès au vote est compromis. Côté politique, l'opposition craint des fraudes massives et menace de ne pas reconnaître les résultats. Un soupçon de fraude envers l'équipe du président sortant, Roch Kabore, favori du scrutin. Sur place, Nathanaël Charbonnier était à l'aube dans un bureau de vote de Ouagadougou.
Voter à 6h du matin au Burkina Faso, c'est comme voter en hiver à Paris. 18 degrés seulement, alors que dans la journée, la température grimpe à 36 degrés. Mais pourtant, ils sont nombreux à, dès la première heure, venir choisir leur président pour les 5 ans à venir.
Je suis venue très tôt, avant l'ouverture même du bureau. Et si j'ai voté, je suis très contente. Oui, j'ai voté pour mon président. Et c'est le président que j'ai voté il y a 5 ans. Et cette fois-ci encore, je vote pour qu'il rebelote une deuxième fois, un deuxième mandat pour terminer ce qu'il a commencé.
Un coup KO.
Un coup KO. J'ai voté un coup KO et ça va être un coup KO, Inch'Allah.
Un coup KO, c'est le slogan du président Roch Kabore qui espère tout simplement être élu au premier tour. Mais comme souvent en Afrique, il ne faut pas sous-estimer le choix divin car Dieu sait s'il est important.
Moi, je vais voter un soutien burkinabé. On doit choisir mon bon président.
Bon, c'est qui le bon président?
Ah, que Dieu lui donne. Il n'y a pas quelqu'un qui a bon président. Que Dieu te donne un président Burkina Faso, là, il y a bon président.
Donc le bon président, il est choisi par vous ou par Dieu?
Par Dieu. Moi, j'ai choisi quelqu'un, mais que Dieu choisisse. Moi, propose, Dieu dispose.
Et le choix des Burkinabés et de Dieu devrait être connu dès ce soir.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de France Culture au Burkina Faso, avec les moyens techniques d'Éric Audra. C'est le traitement qu'a reçu Donald Trump contre le Covid-19. Il est désormais autorisé aux États-Unis. Le Regeneron a été approuvé en urgence par l'Agence américaine des médicaments. On se rappelle de la publicité qu'en avait fait le président américain. Et ce alors que les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, avec 12 millions de cas et plus de 255 000 décès. Selon l'Agence américaine des médicaments, il a été prouvé que le Regeneron réduit les hospitalisations dues au coronavirus et les consultations aux urgences des patients à risque. Au Danemark, c'est une véritable crise politique provoquée par la gestion de l'épidémie et ses conséquences. Le gouvernement danois avait ordonné début novembre l'abattage des 15 millions de visons du pays, car ces visons sont en partie contaminés par une forme mutante du virus qui peut se transmettre à l'humain. Mais la décision passe mal et hier, des centaines d'éleveurs ont manifesté dans tout le pays. Selon eux, cet abattage serait illégal. La correspondance de Frédéric Faux.
Les éleveurs danois de visons ne sont pas contents et ils le font savoir. Ce samedi, au volant de 900 tracteurs, ils ont défilé dans les rues de la capitale Copenhague et d'autres villes en demandant la démission du gouvernement. Car de l'aveu même de la première ministre, Mette Frederiksen, la décision d'abattre tous les visons du pays, et pas seulement ceux qui sont malades, n'a pas de base légale. L'élu social-démocrate s'est excusé en invoquant l'urgence d'agir face à cette souche mutante qui a déjà infecté des dizaines de Danois. L'efficacité d'un futur vaccin aurait même été menacée. Pour calmer les éleveurs, la ministre de l'Agriculture, mercredi, a démissionné. Mais cela n'a pas suffi. Cette contamination des visons a touché d'autres pays, mais le Danemark, premier exportateur mondial, est le seul qui a décidé d'éliminer tous ces animaux. Le gouvernement veut que cette filière s'arrête complètement, au moins jusqu'en 2022.
Frédéric Faux. En France, la courbe de l'épidémie poursuit sa légère baisse, notamment au niveau du nombre de patients en réanimation. Plus de 300 malades du Covid-19 sont morts ces dernières 24 heures, tandis qu'Emmanuel Macron s'exprimera mardi soir à 20h. Pas d'annonce de déconfinement prévu, mais un cap, promet le président dans les pages du journal du dimanche. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal précise que les assouplissements des mesures sanitaires se feront en trois étapes. D'abord autour du 1er décembre. décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin à partir de janvier 2021. En attendant, le confinement est toujours en vigueur avec donc les contrôles des attestations et parfois des situations déconcertantes. J'ai été condamnée parce que je portais un jogging. C'est le titre d'un article du magazine Marianne dans lequel un journaliste dénonce l'amende qu'il a reçue pour non-respect du confinement après un contrôle en mars dernier. Étienne Girard dénonce l'amende en elle-même, il n'était pas en infraction, mais aussi la méthode. Le contrôle s'est terminé sans qu'on lui signifie le moindre procès verbal. Et presque 8 mois après, il reçoit donc une contravention par courrier recommandé. Clémence Gourdon-Négrini.
Quand il a ouvert son amende, Étienne Girard n'a pas compris. Puis il s'est rappelé de l'unique fois où il a été contrôlé pendant le premier confinement.
J'étais sorti prendre l'air avec ma compagne. Après un tour du pâté de maison, on croise une policière et un policier. Vos papiers, s'il vous plaît. Je tends mon attestation de façon tout à fait confiante. Elle nous dit « Vous n'êtes pas en tenue de jogging ».
Pourtant, la promenade était un motif de sortie, tout comme le sport.
Elle nous demande nos papiers. Elle compare à l'attestation. Merci, circulez, rentrez chez vous.
Il est donc très étonné de recevoir une amende qu'il conteste évidemment et lance un appel à témoignage juste pour voir. Finalement, il en reçoit plus de 100 en 24 heures.
Dans un cas, c'est parce qu'elle mangeait une pâtisserie, donc on lui a dit qu'elle n'avait pas inscrit qu'elle était allée s'acheter une pâtisserie. Dans un autre cas, c'était parce que la date n'était pas la bonne, la personne s'était trompée. Et en fait, à chaque fois, le policier avait dit « c'est bon ».
Le journaliste attend de savoir si son affaire sera classée sans suite. Plus de 6 mois après avoir contesté leur amende, d'autres n'ont toujours pas de nouvelles de l'administration.
Et même avec ces fameuses heures de promenade quotidiennes, en jogging ou pas, faire du sport est devenu compliqué, notamment pour les enfants. Il y a les clubs en milieu scolaire, bien sûr, ou les associations sportives. Beaucoup d'associations de quartier, maillon central de socialisation dans de nombreux territoires. Elles sont très utiles, mais elles vont très mal. Elle lance un grand appel à l'aide dans une tribune publiée par le journal L'Équipe. Plus de 80 responsables de clubs amateurs, des champions, des dirigeants sportifs et des élus locaux signent ce texte, dont Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et ancien président pendant près de 15 ans de la Ligue de football professionnel. Les signataires réclament un Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport et un fonds pérenne de 50 millions d'euros pour assurer la survie de ces associations sportives. Frédéric Thiriez.
50 millions pour un fonds d'urgence, qu'est-ce que ça représente? Sincèrement, par rapport aux 100 milliards du plan de relance, ça n'est pas grand-chose. Quant au Grenelle du sport que nous demandons, il s'agit simplement que tout le monde se rassemble. Il faut que vous sachiez que en 3 ans, ces clubs, qui sont souvent dans des zones de quartiers, des villes ou dans des zones rurales défavorisées, nous avons perdu 60 000 emplois. Essentiellement, les emplois aidés, 60 000. Qu'est-ce que la France attend pour s'occuper sérieusement du problème des quartiers et des zones rurales défavorisées? C'est ça le sens de notre appel.
Frédéric Thiriez, le sport affaibli par la crise sanitaire donc, et pas épargné non plus par les affaires de violences sexuelles. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, indique ce matin que 313 affaires de violences sexuelles ont été signalées et que 40 fédérations sont concernées, dont le patinage, l'équitation et plus récemment le judo. Et puis c'est demain que le gouvernement doit dévoiler un plan contre les violences conjugales. De nouveaux outils seront présentés. Résultat de 3 ans de travail coordonné par la plateforme participative mec.org, pendant lesquelles des milliers de pistes avaient été proposées. C'est le dénouement d'une histoire digne de James Bond aux États-Unis. L'histoire de Jonathan Pollard, un Américain de confession juive, qui avait espionné son pays pour le compte d'Israël. Il est désormais totalement libre. Après 30 ans de prison et 5 ans de procédure judiciaire, sa peine est purgée. Il est depuis vendredi totalement libre de ses mouvements, libre de voyager et donc d'aller vivre en Israël, ce qu'il compte bien faire. Son arrestation a fait provoquer l'une des plus graves crises entre Israël et les États-Unis. À Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Une bonne partie des Israéliens considèrent Jonathan Pollard comme un héros, car ses renseignements avaient permis à Israël d'éliminer le numéro 2 du Palestinien Yasser Arafat. Pollard est recruté en 1984 par le légendaire Rafi Eitan, le chef du commando qui avait arrêté le nazi Eichmann. En 1985, l'ambassade d'Israël à Washington refuse d'abriter Pollard, mais 10 ans plus tard, durant sa détention, l'espion est naturalisé israélien et en 1998, 2018, le déjà Premier ministre Netanyahou avait demandé sa libération à Bill Clinton, qui avait refusé pour ne pas désavouer la CIA. En Israël, la fin du contrôle judiciaire de Pollard est considérée comme l'un des derniers gestes de l'administration Trump en direction du gouvernement israélien. Jonathan Pollard peut désormais s'installer quand il le veut en Israël, si son épouse, malade d'un cancer, peut faire ce long voyage.
Frédéric Mettezo. Ce dimanche, la face cachée du globe est consacrée à la Syrie. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Que se passe-t-il en Syrie ? La guerre, les guerres qui ont traversé le pays depuis 9 ans sont-elles finies ? Conflit local, national, régional, puis international, dont la première et principale victime est la population syrienne, se poursuit en sourdine. Le président syrien Bachar al-Assad a réussi à se maintenir au pouvoir par la force, mais il contrôle un pays dévasté dont 50% de ses citoyens sont déplacés, réfugiés ou exilés. Quant au processus de négociation sous l'égide des Nations Unies, il est dans le coma. L'heure de la paix est encore très loin, estime Ala Khonmani, journaliste à Libération.
Aujourd'hui, le régime, avec l'appui de la Russie et de l'Iran, a repris une grande partie du territoire et qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu. Cela dit, les petites guerres qui se déroulent aujourd'hui continuent. Il y a quelques jours, et c'est régulier, Israël a fait un raid contre des forces du régime et iranienne à la frontière syro-israélienne. Il y a une semaine, 10 jours encore, le régime a refait une campagne de bombardement sur la dernière zone qui échappe à son contrôle, qui est détenue par l'opposition dans le nord, dans la région de Idlib donc. On a encore quelques opérations qui sont menées contre l'État islamique à l'est du pays, où il y a encore des forces américaines, il y a encore des forces russes, il y a encore des milices. Donc les acteurs de la guerre sont encore toujours là. Mais rien n'est résolu. Évidemment, il n'y a pas de paix.
C'est une victoire militaire du régime syrien.
C'est une victoire militaire, évidemment. Sur le terrain, il a reconquis. Il faut remonter à 2014-2015, avant l'intervention russe directe. Il ne contrôlait plus que 20 à 30% du territoire. Aujourd'hui, il en contrôle 60-70%. Maintenant, le pays est en souffrance, la population est presque au bord de la famine, le pays est complètement dévasté, il n'y a aucune reconstruction possible et la moitié de la population n'est plus là où elle était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les forces russes, la police militaire russe intervient dans les villages, dans les villes, dans les trucs, en Syrie, comme un peu une force d'interposition, une force qui gère le pays pratiquement. Quand on voit l'état du pays et de la population, toute la Syrie est défaite.
Rappelons près de 400 000 personnes tuées, 5 millions exilées ou déplacées, principalement au Liban, en Turquie et en Jordanie, et une reconstruction du pays qui est évaluée entre 240 et 400 milliards d'euros.
Oui, le premier euro n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, il y a des milliards d'euros qui sont en train d'aller au camp de réfugiés parce qu'il n'y a rien qui puisse faire revenir la population. Tout est détruit, la sécurité des gens n'est pas garantie. Les jeunes garçons sont tout de suite enrôlés dans l'armée. Donc on est dans une situation de blocage total avec quand même une dégradation. On est dans une dégradation des conditions de vie de la population. L'économie est pratiquement à l'arrêt.
Aujourd'hui, dans quelle situation se trouve l'opposition ? Existe-t-elle encore ?
L'opposition principale est en Turquie, donc nécessairement sous influence turque. La Turquie qui est un des acteurs extérieurs qui devrait être du côté de l'opposition, mais qui en fait n'agit que pour ses propres intérêts et dans ses propres batailles en Syrie. Et puis le fait de n'avoir abouti à rien, évidemment, décrédibilise cette opposition. Pour la population, l'opposition n'existe pas. Cela dit, on voit une des multiples tentatives de reconstruire au moins une pensée d'opposition, un projet. Certains en Turquie, beaucoup en Europe, tentent de s'organiser, de faire entendre sa voix. D'ailleurs, par différentes manières, on a vu une éclosion d'expression culturelle de ces Syriens démocrates, appelons-les, qui ne sont pas organisés encore. Mais c'est un réservoir qui est là et qui, avec une volonté politique, peut faire entendre sa voix à un moment donné.
À Ala Konmani, journaliste à Libération, qui nous fait découvrir une jeune flûtiste et chanteuse syrienne, Nessam Jalal, dont la musique exprime souffrance et richesse de la vie avec beaucoup d'émotion, comme dans ce morceau « Ivresse ». Prochain.
Merci Nadine Epstein. La grisaille persiste au nord de la Seine et sur les côtes de la Manche. Les éclaircies sont de plus en plus franches vers le sud jusqu'à un temps ensoleillé sur la moitié sud. Il fait cet après-midi de 7 à 17 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili et Audrey Guélil à la technique.